Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Si l'on vous dit Grèce, sport, compétition, évidemment vous pensez aux Jeux Olympiques. Dans leur version antique, les Jeux étaient dédiés à Zeus, maître de l'Olympe, et ces Jeux voyaient s'affronter des sportifs venus de toutes les cités grecques sur le site d'Olympie tous les 4 ans. Le rituel prend fin au 4e siècle de notre ère sur décision de l'empereur Théodose, soucieux de mettre un terme à ces Jeux qualifiés à l'époque de païens. La suite est connue à l'époque moderne, c'est le baron Pierre de Coubertin qui ressuscite les Jeux Olympiques. La première mouture des JO modernes a lieu à Athènes en 1896. L'histoire est connue, mais ce qui l'est moins, c'est l'histoire des autres tentatives pour recréer les Jeux avant cette date. Des tentatives qui interviennent dès le milieu du 19e siècle, en lien évidemment avec le projet politique de l'État grec moderne. En septembre 2000, Emmanuel Laurentin s'embarquait pour Athènes sur les traces de ses premières moutures des Jeux Olympiques modernes. Les JO avant les JO, c'est le nom de ce documentaire diffusé dans La Fabrique de l'Histoire.
Το Παναθηναϊκό Στάδιο κατασκευάστηκε από τον Αθηναίο πολιτευτή και ρήτορα Λυκούργο και εγγενιάστηκε κατά τις εορτές των Παναθηναίων το 329 π.Χ.
Les JO avant les JO.
Το 250 π.Χ. το στάδιο ανακαινίστηκε από τον Ηράκλητο, γιο του Ασκληπιάδη Αθηναίος.
Athènes, juin 2000. La capitale grecque continue à gagner les collines environnantes, à englober les villages alentours, à produire du gaz carbonique qui rend chaque jour l'atmosphère un peu plus irrespirable, à connaître des embouteillages de très grandes métropoles. Et pourtant, les travaux d'infrastructure des Jeux Olympiques de 2004 ne sont pas encore véritablement lancés. Mais la polémique, elle, a déjà commencé sur l'incapacité ou non du gouvernement à terminer ce chantier à temps. Car Athènes est fière et heureuse de recevoir les Jeux Olympiques. Elle s'est remise de l'humiliation de s'être vue préférée Atlanta pour les Jeux du Centenaire en 1996. Et bien des Grecs aiment aujourd'hui à rappeler qu'avant les premiers Jeux de 1896, justement voulus par Pierre de Coubertin, eh bien des Olympiades avaient vu le jour déjà à Athènes. À Athènes, le témoin vivant de cette renaissance olympique, c'est le stade, tout de marbre blanc vêtu, dont la reconstruction, entamée pour les Jeux de 1896, ne fut achevée que 10 ans plus tard, en 1906. Nous y avons rejoint Alexis Krauss, archiviste et spécialiste de la préhistoire des Jeux olympiques.
Alors quand on ne connaît pas le grec, on entend quelques mots, quelques noms propres évidemment, Lycurgo,
Lycurge donc,
l'orateur antique.
L'homme politique et orateur qui a donc commencé la construction de ce stade en 329. Et on a quand même un énorme saut, n'est-ce pas, de 1700 ans à peu près, pour recommencer l'intérêt porté à ce lieu et commencer le remarquement pour les premiers Jeux Olympiques de 1896.
Alors, nous allons monter peut-être dans le stade lui-même. Donc, il faut décrire ce stade, parce que, évidemment, quand on parle de stade, on imagine des stades fermés, comme sont tous les stades européens ou même internationaux aujourd'hui. Mais ici, nous sommes dans un stade ouvert sur un de ses côtés, au moins, puisque ça, c'était la disposition des stades antiques. Tout ce côté est ouvert ici.
De toute façon, il ne s'agit pas d'un stade fermé, c'est un stade ouvert au ciel, pour voir ça d'abord. Et il est construit donc, disons, dans une espèce de colline, comme, un petit peu comme les théâtres. Et c'est cette beauté, disons, qui ressort de cet élément-là de construction. C'est difficile à essayer de faire quelque chose de plus gracieux.
De plus harmonieux.
De plus harmonieux.
Parce que la nature n'est pas absente. On voit donc ce marbre et cette pierre qui donc recouvre la totalité des marches.
C'est la colline d'Arvitos sur laquelle repose ce stade. C'est la colline d'Arvitos.
Et donc juste au-dessus de cette pierre, de ces marbres, on voit évidemment non pas des oliviers, mais des cyprès, d'autres types d'arbres, des pins, qui font une sorte de couronne au-dessus du marbre du stade. Et c'est ce qui donne effectivement cette impression, toujours dans la Grèce antique, que ce soit à Épidaure ou ailleurs, que le grec antique installe sa civilisation au milieu de la nature, avec un rapport au cosmos qui est particulier.
Tout à fait. En 1890, ici, il n'y avait qu'un trou. Un trou dans une colline, c'est tout. Et là, il a fallu quand même un travail d'architecte, d'ingénieur et d'archéologue extrêmement important pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui.
Alors là, nous sommes arrivés aux trois quarts du stade, nous arrivons donc vers le fond de ce stade, et là il y a une série de sièges très particuliers, ce sont des sièges pour les personnalités, puisque effectivement il y avait déjà...
Vous allez voir le nom de Monsieur Coubertin qui est marqué là, qui est gravé là, d'ailleurs.
Ah oui, alors, Cécis Petrou Coubertin.
Voilà, c'est donc le siège de Pierre Coubertin en 1896. Le roi était assis sur ces sièges, sur ces trônes qui sont là. Et donc les autres personnalités étaient placées à côté.
Et donc juste à côté de Pierre de Coubertin, Avery Brundage, qui était donc patron du comité international olympique il y a quelques dizaines d'années,
oui,
a fait également graver son nom, Avery Brundage, Olympios.
Oui, c'est une grande idée, ça. Voilà, on se sent très sportif quand on a monté là-dessus. Hein.
Donc, c'est particulièrement minéral ici, il n'y a quasiment que de la pierre. C'est ça le principe du stade.
Voilà, c'est la pierre, le marbre blanc du Pentélique, le même que celui de l'Acropole qui est là. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de ligne droite, n'est-ce pas ? On a l'impression qu'il y a des lignes droites, mais en fait, il n'y en a pas.
Ah oui, hein, c'est-à-dire que même cette grande ligne qui pourrait être droite est en fait
courbe. En face, on la voit droite. Ce côté, on voit qu'il y a la courbe.
Ah, c'est pour une question de perspective ou c'est...
C'est la question de perspective. D'ailleurs, c'est un des mystères, enfin, des petits secrets sur lesquels est construit aussi l'Acropole, parce qu'on voit les mêmes choses. On voit là où on croit voir une ligne droite. Sur les fondements de l'Acropole, il y a toujours une ligne courbe. C'est aussi la même chose pour les colonnes. Les anciens savaient que pour voir droit, il faut faire courbe.
C'est ce qui est effectivement une pensée qui est une pensée déjà complexe. Voilà. Donc d'ici, on a une vue assez vaste sur Athènes. On voit donc les collines qui enferment Athènes d'une certaine façon dans une cuvette.
Et il faut dire que d'abord, c'est ce que nous voyons devant nous, c'est le parc donc de Zapion, du palais d'exposition de Zapion.
Celui qui a construit ce Zapion, donc on connaît quand on est à Athènes, puisque c'est un des hauts lieux où on peut se promener, etc. Zappas était donc quelqu'un qui était lié à cette histoire grecque des Jeux Olympiques.
Oui, le palais d'exposition que vous voyez là-bas, un peu, derrière les arbres.
On le distingue à peine.
Ce palais-là, il a été construit dans l'idée qu'il y aurait de Jeux. Mais finalement, depuis le début, et c'est bien avant les Jeux internationaux, la construction de ce palais, depuis le début, le gouvernement grec a demandé à Zappas et a imposé l'utilisation de ce palais d'exposition pour des expositions industrielles, agricoles, etc., etc., pour faire la promotion des produits grecs. Le gouvernement de cette époque pensait qu'il pouvait mieux faire la promotion de la Grèce par les produits industriels que par les idées antiques. Et on a très bien compris par la suite qu'ils avaient parfaitement tort. Ça, ils n'ont rien vu.
La Grèce, du milieu du XIXe siècle, vient tout juste de gagner son indépendance. Repliée sur le Péloponnèse et l'Attique, elle espère croître en superficie, gagner la Grèce du Nord, les îles du Dodécanèse et pourquoi pas l'Asie mineure. Pour conforter l'idée nationale grecque, pour réunir les Grecs de la diaspora, quoi de mieux qu'une compétition inspirée de l'âge d'or de la Grèce antique, les Olympiades, une compétition portée par un millionnaire de l'époque, Zappas.
Zappas, donc, il avait dans la tête l'idée de la renaissance des Jeux Olympiques, mais au niveau national, pas au niveau international. Donc, il s'agit d'une période qui va de 1855 à 1888, à peu près, où, au niveau de la construction de leur nation, de leur idée nationale, les Grecs ont aussi utilisé l'idée de la renaissance des Jeux Olympiques comme une idée forte, puisque il s'agissait de réunir les Grecs de partout. On était en la pleine période de l'épanouissement national. Alors les Grecs de partout, les Grecs de la diaspora, mais aussi les Grecs des régions à libérer, viennent à ces Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Zappas, les Olympiades de Zappas.
Alors ces Jeux Olympiques donc participent de l'idée nationale de la Grèce en construction.
Voilà.
Et le sport est considéré comme un autre moyen pour pouvoir construire l'identité nationale, c'est cela?
À cause de la référence à l'Antiquité, on fait avancer l'idée du sport, évidemment, dans ce sens-là. Et ce qui se passe dans le lieu où nous sommes maintenant, devant le stade antique, qui est le seul, je crois, qui a été reconstruit, et le plus beau en tout cas aussi, qui existe aujourd'hui, à l'Antiquité, il n'a jamais été utilisé pour les Jeux Olympiques. C'était le stade d'Athènes. Mais c'est dans ce stade-là qui avait commencé à être utilisé par ces Jeux nationaux, n'est-ce pas ? Au bout de, disons, d'une ou deux fois d'essai de faire des jeux ailleurs, au centre d'Athènes, on a fini par se dire qu'il faut quand même utiliser un lieu où il y avait le sport dans l'Antiquité. Alors on a fait le début d'utiliser ce stade-là qui, il ne faut pas le voir comme aujourd'hui, qui est splendide avec tout ce marbre blanc autour. Il n'y avait pas de marbre du tout, c'était un trou ici. C'était le trou qui était resté parce que pendant tous ces siècles, les gens avaient retiré le marbre pour faire d'autres constructions, leurs maisons, etc. Donc ça a commencé à être utilisé de nouveau pour le sport dans cette période dont je vous ai parlé, la seconde moitié du 19e siècle, en tout cas vers 1880 certainement, un peu avant même. Et ce n'est que à partir des premiers Jeux Olympiques internationaux de 1896 qu'il a vraiment commencé à être remarbré, parce que c'était une opération extrêmement chère. Ils avaient essayé de faire ça même auparavant, ça avait très peu avancé, et ce n'est que pour les premiers Jeux internationaux que le remarbrement a vraiment eu lieu, pour vous dire tout simplement que à cause de l'idée nationale et de ces Jeux de Zappas, nous voyons combien l'histoire moderne de la Grèce est liée avec cette histoire des Jeux Olympiques et de leur renaissance.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque.
Bonjour. Dans le monde entier, la figure de Coubertin a occulté les tentatives antérieures de faire revivre les Jeux antiques. Mais dans le centre d'Athènes, une bâtisse et son propriétaire se souviennent. Ni Georges Dolianitis, ni sa maison n'ont bien sûr connu la préhistoire des Jeux olympiques modernes. Mais ce collectionneur a passé sa vie et utilisé sa fortune à amasser des documents dans cette maison. Des affiches, des gravures, des livres, des brochures sur le passé de la Grèce, tout le passé de la Grèce, avec une section consacrée entièrement aux Olympiades.
D'abord, je suis très heureux de vous accueillir à ma bibliothèque. Il s'agit d'une bibliothèque de 75 000 volumes.
La demeure, fin de siècle, sise dans une rue peu passante et massive sans être imposante. À l'intérieur, les boiseries sur les murs et les étagères des bibliothèques, des livres partout, assombrissent l'atmosphère et poussent au chuchotement.
Et vous pourriez presque concurrencer, Monsieur Zelenitis, la Bibliothèque nationale grecque, puisque vous avez des choses que n'ont peut-être pas les institutions nationales du pays.
Et ma volonté, c'était pas seulement des livres rares, mais j'étais toujours intéressé pour avoir des livres qui regardent les sections spécialisées. Je crois que c'est très difficile d'y avoir une bibliothèque avec 1000 titres de livres concernant la mythologie grecque. Et aussi avoir des 15 000 titres de journaux et de revues. C'est ça la différence de la bibliothèque.
C'est votre cas.
C'est la spécialisation.
Alors comment vous est venue l'idée d'avoir une spécialisation sur également une partie de votre bibliothèque consacrée aux Jeux Olympiques modernes?
Oui,
parce et à la préhistoire des Jeux Olympiques.
Oui, c'est ça, parce que une expression de la civilisation hellénique, c'était les Jeux Olympiques.
Alors vous pouvez peut-être nous conduire à la section
oui,
de...
Oui, je peux vous conduire.
Dans cette caverne dédiée à l'histoire grecque, chaque pièce a ses trésors. Trésors de la littérature, florilège de la civilisation, encyclopédie d'un monde en train de se reconstruire, la Grèce moderne.
C'est l'association des chambres que vous avez parlé. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 15 chambres. Alors, chaque chambre, il y a un sujet différent. Ici, c'est la chambre avec 7000 volumes qui regarde les Grecs de diaspora. Ah. Par exemple, ici c'est l'Asie mineure, il y a Pergamos, il y a Kydonies, la Ivalie, il y a Constantinople, tous les livres qui regardent les endroits, l'histoire des Grecs de l'Antiquité jusqu'à nous, où il y a la présence de la Grèce. Par exemple, plus de 300 études, mélettes, études qui concernent le fameux grec poète de l'Alexandrie d'Égypte, Cavafis.
Constantin Cavafis.
Voilà, des poésies très rares, etc. Tout ça, c'est la chambre de la littérature grecque.
Et là, vous avez l'intention de l'ouvrir au public, cet endroit?
Oui, oui. Alors, nous allons revenir pour notre sujet des Jeux Olympiques. Je vais vous parler et vous montrer quelques documents de mon archive qui regarde la préhistoire et l'histoire de la rénovation des Jeux Olympiques. Je crois que vous êtes intéressé pour ce sujet, n'est-ce pas? Alors, on a eu plusieurs tentatives dans le 19e siècle pour la rénovation des Jeux Olympiques. Même un grand poète grec, Panagiotis Soutsos, il a publié dans les journaux que vous voyez ici, Ilios, une poésie extraordinaire pour la portance de la rénovation des Jeux Olympiques. Voilà.
Ephéméris, donc Ilios Ephéméris, Politechi, Philologiki, qui est Emboliki, c'est ça?
Oui, donc, c'est ça, vous comprenez. Alors, dans ce journal, qu'il est paru en 1833, dans la première capitale de la Grèce, Nafplion, nous avons ici cette part de poésie de Soutsos, qui est une poésie extraordinaire pour la nécessité de la rénovation des Jeux Olympiques.
Qu'est-ce qu'elle dit exactement?
En
grec, elle est...
En grec, oui. Αν η δύνατος την γη σας η σκιά μας να πετάξει, προς τους υπουργούς του θρόνου ήθελε με τόλμη κράξει. Άφετε τα μικρά πάθη τας ματέας ερηδά σας. Άθλη συλλογιστείτε τι το πάλε η Ελλά σας. Δεν με λέγετε πού είναι οι αρχαίοι σας αιώνες, οι ωραίοι σας πού είναι Ολυμπιακοί αγώνες, πού τα Παναθηναιά σας, etc. etc. C'est très important parce que 22 ans après un héros de la révolution hellénique contre les Turcs, Evangelis Zappas, précisément en 1856, il a écrit au roi des Hellènes à cette époque, Othon, sa proposition pour la renaissance des Jeux Olympiques en proposant que toutes les dépenses qu'il faudrait cette entreprise, il donnait Zappas, parce qu'il y avait une grande fortune économique en Roumanie.
Donc il était le mécène des nouveaux Jeux Olympiques.
Oui, c'est sa proposition faite, et il mentionnait que cette idée, il était inspiré du poème de Soutsos.
Donc vous reconstituez d'une certaine façon, pour vous-même et pour les gens qui s'y intéressent, oui, une sorte de fil qui conduit du poète au mécène, du mécène aux Jeux, et des Jeux aux Jeux Olympiques modernes.
C'est ça. Alors, le premier degré royal, sous le titre degré sous l'institution des Olympiades, il est paru en 1858. Et si vous voulez, je vais vous montrer le prototype de ce degré.
C'est donc le décret royal.
Décret royal, le prototype de 1800. Attendez.
Quivernicios, ça veut dire. C'est donc le journal officiel.
Le journal officiel, oui.
Non, ça c'est celle-là. C'est le premier degré royal au monde qu'il part pour l'institution des Olympiades et aussi des Jeux Olympiques à chaque 4 ans, les Olympiades. Pour donner prestige à cette entreprise, on a utilisé des mots des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Les membres des compétitions athlétiques ou des membres du jury pour les différentes expositions, pour les résultats, ils sont appelés Hellanodikos Epitropi, c'est-à-dire comité des Hélènes. Parce que le mot Hellanodikos, ça veut dire les juges des Hélènes. Le commissaire du jeu athlétique, il était appelé Alitarchis.
Un peu pour établir une sorte de pont entre l'Antiquité et aujourd'hui.
Voilà. Alors, les premières Olympiades, après les décrets, ils ont lié en 1859, c'est-à-dire à peu près 4 ans avant la naissance du baron de Wurtemberg. C'est quelque chose d'extraordinaire pour la Grèce à cette époque. La partie, l'exposition olympique, on peut dire le mot, exposition olympique, il y avait un succès énorme, plus de 1000 participants à l'exposition. Mais la partie athlétique, on n'a pas eu le succès, étant donné que le comité il n'a pas préparé les choses comme il faudrait. 15 000 Athéniens ils ont allé pour voir les compétitions, mais ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de tribune, on ne voyait rien. Alors, c'est pour ça qu'il était. La presse, il a condamné, il a fait une critique très grave.
Sévère.
Il a dit que Zappas, il n'a pas donné son argent pour faire des choses comme ça. Le deuxième Olympia, on a eu en 1870, après 11 ans. Mais c'est très important, c'est une étape fondamentale. Parce que Zappas, avec son testament, il a offert toute sa fortune au gouvernement pour aider, pour l'utiliser pour sa fondation pour les Olympia. Alors, avec les fonds, le gouvernement, il a nommé le comité des Olympiades, qui existe encore aujourd'hui. Alors, le comité, selon le désir de Zappas, il a pensé d'utiliser le stade panathénien.
Donc le stade antique,
le stade antique,
qui était dans cet état de ruine totale.
Oui, c'est ça. Et en 1869, un an avant le deuxième Olympien, le gouvernement il a demandé du fameux architecte bavarien qu'il était en Grèce, Ziller, de faire les excavations. Et dans ce stade qu'il était, vous voyez ici, pour la première fois, on a eu lié le deuxième Olympien. Que j'ai les journaux en prototype de cette époque, qui parlent, ils disent 30 000 Athéniens, à 30 000 spectateurs, on a applaudi, on a assisté au deuxième Olympien. C'était le plus grand événement athlétique de toute l'époque. Imaginez le stade comme il est aujourd'hui, sans tribune. Les gens, ils étaient assis sur terre. Il y avait seulement des tribunes de bois pour la famille royale, pour les ministres, etc. Et avec la présence de 30 000 personnes, c'était à mon avis le plus grand et unique événement athlétique au monde. Athènes comme capitale, à cette époque, il y avait 48 à peu près 1000 habitants.
Une toute petite capitale de province, enfin, c'était une petite
ville.
Oui,
imaginez que 30 000, il était présent au stade. Alors, le deuxième Olympiade que je vous parlais, ils ont eu lieu en 1870. C'est une étape fondamentale pour les mouvements olympiques, parce qu'ils ont eu un succès incroyable.
À l'intérieur de la Grèce.
À l'intérieur de la Grèce, oui, parce que je veux clarifier que toutes les tentatives pour la rénovation, c'était toujours dans le concept des Jeux olympiques de l'Antiquité. C'était prévu seulement pour les Grecs. La contribution du baron de Coubertin, c'est que lui, il a proposé qu'il devienne un événement pas national, mais international. Pendant les premiers Jeux olympiques, en 1896, Athènes, il y avait 128 000 habitants. Dans les stades athéniens, je fais un intervalle, je vais vous montrer la gravure originale de la rénovation. Voilà, vous voyez l'évolution. Ici, une gravure, c'est que ça en est, hein, voyez.
Et donc, ça représente effectivement le stade entièrement plein.
Ah, vraiment, c'est, ils disent 75 000 dans les stades et 15 000 en dehors du stade. Et c'est toute la population. Parce que c'était habitué, on assistait tous.
Le peuple,
il était préparé. Il assistait toujours des événements des Olympiades. C'est ça qu'ils insistent.
C'est-à-dire que sans cette préparation, vous pensez que le coup de Pierre de Coubertin n'aurait peut-être pas réussi de la même façon?
Je dis que sans baron Pierre de Coubertin, ce sera impossible pour l'époque, pour plusieurs années de cette époque, d'y avoir à Paris un congrès international avec le sujet de la rénovation des Olympiques. Ça, c'est clair. On accepte tous. Sans la présence du grec Vikelas, qui était le premier président du Comité Olympique International, n'était pas choisi Athènes comme capitale, comme le pays pour les premiers Jeux Olympiques. Et sans la choix d'Athènes, et ce n'est pas mon avis, mais toutes les qui s'occupent avec l'histoire, ils sont d'accord que le futur des Jeux Olympiques, c'était imprévu. Parce que
c'était impossible de
réussir. C'était impossible, parce que le triomphe des Jeux Olympiques, c'est pour ça que moi, je crois que les protagonistes, les rénovateurs des Jeux Olympiques, ce n'est pas des personnalités, c'est le peuple. La Révolution française, il y a des personnalités qui ont contribué à la Révolution, mais c'est le peuple qui l'a fait, la Révolution française. Ce n'est pas des personnalités. C'est pour ça que c'est le résultat de la passion des Grecs, la réussite.
les JO avant les JO, prise de son à Athènes, Emmanuel Colchet, mixage à Paris, Olivier Dupré, une émission d'Emmanuel Laurentin, réalisée par Christine Robert. Le laboratoire de la Fabrique de l'Histoire.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 septembre 2000. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.